Comme Seigneur, ta parole nous le dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, ô Dieu, où tu nous attires à toi et tu nous donnes l'occasion de t'exprimer nos sentiments, de faire monter vers toi des paroles de louange et d'adoration. Oui, il y a un temps où, Seigneur, par ton esprit, et à travers le Christ, nous entrons dans ta présence pour épancher tout notre être devant toi et te rendre ce qui t'est dû de toute éternité, la louange, l'adoration, la reconnaissance, l'honneur. Mais il y a aussi un temps, Seigneur, où alors que nous sommes dans ta présence, tu nous demandes, ô Dieu, de nous taire afin de te tendre notre oreille et de recevoir, Seigneur, ta parole. Et ce matin, nous prions pour que tu aides ton serviteur à proclamer ta parole, que tu soutiennes ton serviteur afin qu'il ne soit qu'un simple porte-parole. Seigneur, oui, qu'il ne soit qu'un outil entre tes mains pour apporter, Seigneur, ta parole à ton peuple. Parle-nous. Dépose ta pensée dans nos cœurs, afin que cette pensée puisse renouveler notre intelligence et par conséquent nous transformer, nous métamorphoser à ton image et nous communiquer ces discernements dont nous avons tant besoin. Seigneur, quant à connaître ta volonté, ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est merveilleux. Merci pour tout. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons revenir sur notre thème. C'est donc le troisième épisode de cette invitation à prendre les chemins de la prière. Cette invitation, mes amis, que le Seigneur adresse à nos cœurs. Invitation à amorcer un voyage dont la destination finale n'est autre que le cœur de celui qui est devenu notre Père en Jésus-Christ. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Nous allons relire très rapidement nos deux passages. Le premier, c'est donc dans Marc chapitre 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 34. Et puis ensuite, nous terminerons notre lecture dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Marc 12, à partir du verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et plus tard, l'apôtre Paul dira que tous les commandements, tels que nous le trouvons dans la parole de Dieu, sont résumés dans l'amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Verset 32, le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume des dieux. » Et personne n'osa plus lui poser des questions. Et enfin, Matthieu, chapitre 6, ce passage nous a accompagnés pendant de nombreux dimanches dans les mois passés. Matthieu 6, verset 9 à 10, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Amen. » Prendre les chemins de la prière au pluriel, comme nous l'avons vu. Pourquoi pluriel? Parce que il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Et selon le point de départ qu'on prendra, eh bien on se trouvera sur un chemin où nous une certaine vision de Dieu nous accompagnera. Et la fois dernière, nous avons terminé notre méditation sur les deux paroles du Seigneur que nous trouvons dans Matthieu chapitre 6, où le Seigneur nous enseigne comment nous devons prier. Et par rapport à ça, nous avons vu que le Seigneur n'a pas commencé sa prière par notre pourvoyeur qui est aux cieux. Que ton nom nous soit merveilleusement généreux. Il n'a pas dit non plus, notre défenseur qui est aux cieux, que ton nom soit dirigé contre nos adversaires, ou notre vainqueur qui est aux cieux, que ton nom nous soit ou nous accorde la victoire, ou notre bénisseur qui est aux cieux, que ton nom ouvre les écluses des cieux pour faire descendre sur nous toutes sortes de bénédictions. Voyez-vous? En d'autres mots, il n'a pas mis en évidence ce que Dieu peut faire pour nous. Il est vrai que Dieu est notre pourvoyeur, celui qui pourvoit tous nos besoins. Il nous accorde son souffle vital. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a manifesté sa bonté, sa bienveillance. Dieu est notre vainqueur, il a tout accompli à la croix. Et il nous appelle à demeurer dans sa victoire. Dieu est celui qui nous défend face à nos adversaires. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est notre bénisseur suprême. Paul dira que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas commencé sa prière en mettant en évidence, eh bien, tous ces aspects, tous ces attributs de Dieu qui montrent, eh bien, ce dont Dieu est capable par rapport à ses enfants, par rapport à tous ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur ne met pas l'accent là-dessus. Mais au contraire, il met l'accent sur ce qu'il est pour nous. Alléluia. Il est notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Eh bien, dans ce modèle unique de prière, nous voyons que le point de départ de toute démarche qui consiste à aller vers le Seigneur, et donc toute démarche au niveau de la prière doit avoir pour point de départ notre amour pour le Père, notre Père, mais aussi avoir pour finalité et pour motivation notre Père. Alléluia. En tout et pour tout, le Seigneur veut que son peuple, que ses disciples sachent que la chose la plus importante, ce n'est pas tant ce que Dieu peut faire pour nous, mais plutôt notre relation avec lui. C'est notre relation, la qualité de notre relation qui déterminera la qualité de notre vie. Alléluia. Nous approcher de lui afin d'avoir un cœur à cœur avec lui, afin d'avoir un face à face avec lui pour l'adorer. Gloire au Seigneur. Et donc en utilisant le vocable « notre Père », Jésus met l'accent sur la relation qui nous unit à Dieu. Ce Dieu-là, qui s'est manifesté à travers toute l'Écriture sainte, à travers la création comme étant le Créateur, comme étant le Dieu Tout-Puissant, comme étant celui qui dit un mot, la chose accomplie, comme étant celui à qui l'humanité, tôt ou tard, aura de compte à rendre. Ce Dieu qui est le juge, ce Dieu qui est le Dieu de l'impossible, eh bien, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, et ça c'est la suprême révélation, c'est Dieu est devenu notre Père, avec tout ce que cela implique. Alléluia. C'est donc la relation de Père-enfant, une relation qui repose entièrement sur l'amour, que le Seigneur attire notre attention. Gloire au Seigneur. Nous avons parlé un tout petit peu de Paul la fois dernière. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, eh bien, il ne met pas l'accent sur la comment concernant son travail, concernant son apostolat. Il ne met pas l'accent sur le devoir qu'il devait s'acquitter. Il ne met pas l'accent sur la récompense. Mais Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 14, que c'est l'amour du Christ qui nous étreint, qui nous enlace, qui nous presse. Alléluia. Et donc, la motivation doit être l'amour pour tout ce que nous sommes censés faire pour le Seigneur. Et l'amour seul. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant regarder de plus près. J'en ai parlé, j'en ai survolé un tout petit peu, mais aujourd'hui, nous allons essayer d'examiner toutes ces motivations de plus près. Et donc, considérez les trois motivations qui déterminent donc le point de départ à partir duquel nous amorçons notre voyage vers Dieu, nous amorçons notre voyage, évidemment, au niveau de notre cœur, pour entrer dans sa présence. Trois possibilités, trois motivations, nous en avons parlé un tout petit peu. Motivation, point de départ de la prière et de l'intercession. La première possibilité, le premier point de départ, eh bien, notre motivation première est la satisfaction de nos besoins personnels, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, dans ce scénario, dans ce cas de figure, la prière devient alors simplement un moyen d'utiliser Dieu pour satisfaire nos besoins. Un moyen pour amener Dieu à rencontrer nos besoins, quels qu'ils soient. Et donc, dans ce scénario, comme je l'ai souligné la fois dernière, Dieu est réduit au rang de simple commodité de la vie. C'est-à-dire, il devient un élément, il devient quelqu'un vers qui nous nous tournons pour qu'il rende notre vie agréable, notre vie confortable. Voilà ce qui arrive lorsque nous prenons cette motivation, c'est-à-dire la satisfaction de nos besoins comme étant la motivation première qui nous amène vers Dieu. Alléluia. Là, mes amis, Dieu devient une sorte de magasin. Dieu devient une sorte de supermarché où on ne se rend que lorsqu'on est dans un besoin quelconque. Voilà. Vous le savez tous, il viendrait à l'esprit, à moins que vous soyez complètement à l'ouest, il viendrait à personne l'idée d'aller dans une alimentation simplement pour s'asseoir et puis commencer à contempler les articles qui sont proposés. Vous passez dans le rayon poisson, vous regardez, vous asseyez un tout petit peu pour apprécier tous ces tilapiens, toutes ces plis ou autres poissons qui sont exposés. Vous passez au rayon boucherie, vous regardez le côte d'agneau, telle viande, etc. Vous êtes là, après vous vous asseyez. Non, pas du tout, n'est-ce pas? Quand on va dans une alimentation, c'est parce qu'on est dans un besoin. On va chercher ce dont on a besoin. Je prends ça, je prends ça. Eh bien, malheureusement, quand nous partons, quand notre motivation première est la satisfaction d'abord et avant tout de nos besoins personnels, alors nous considérons Dieu comme un simple moyen, évidemment avec beaucoup de révérence, mais somme toute un moyen pour qu'il satisfasse tous nos besoins. Ici, la prière est comme une technique de survie. On se rend compte, par exemple, tiens, on est à la maison, on se rend compte qu'on n'a pas d'huile pour la cuisson. On se rend compte qu'on n'a pas de la mayonnaise, qu'on n'a pas de frites, qu'on n'a pas ceci. Et puis, hop, on va vite, on court, on va à l'alimentation, on prend ceci, on prend cela, la mayo, les frites, ou je ne sais quoi, et puis on en ressort. Et donc, la motivation, la force qui nous a fait lever pour quitter notre maison, aller à l'alimentation, eh bien, c'est ce besoin-là. Et dans ce scénario, si Eh bien, la prière devient comme un appel de secours céleste. Voilà, on est dans un besoin. Ticou! Seigneur, tu ne trouves pas que j'ai maintenant 26 ans, j'ai besoin d'un mari. Je veux jeûner. On jeûne pour avoir un mari. Oui, Dieu a promis. Il sait que nous avons besoin d'une épouse. Il sait que nous avons besoin d'un mari. Mais nous ne devons pas considérer Dieu comme quelqu'un qui tiendrait une agence matrimoniale. Où on irait et toutes sortes de femmes seraient exposées comme ces jeunes filles qui sont derrière moi. Évidemment, il y a quelques garçons. Et puis on viendrait et dit, bon voilà Seigneur, moi c'est celle-là. Ah non, 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 moi c'est celle-là. Ah non, mes amis. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, nous avons pris ce point de départ comme première motivation. On jeûne pour que Dieu fasse ceci pour moi. Oui, il peut tout, mais ceci ne devrait pas être notre première motivation. Deuxième possibilité, qui correspond à la deuxième motivation, c'est que la prière a pour motivation première les besoins des autres. Ah, certes, c'est un objectif noble que d'intercéder pour les autres, que de porter le fardeau des autres, que de prier pour les autres, alléluia. Et la Bible nous le demande, hein. Jacques 5, verset 16, nous le dit, « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. » C'est donc une recommandation de la part du Seigneur que nous partageons le fardeau. Voilà, tel frère est dans un besoin, eh bien je porte son besoin, je l'amène au Seigneur. Mais si ceci détermine mon point de départ et ma première motivation, eh bien je passe à côté. Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2, abonde dans le même sens quand il dit « J'exhorte avant toute chose de faire des requêtes, prières, intercessions pour tous les hommes, pour le roi, etc. » C'est donc il nous amène, il nous pousse, il nous exhorte à prier pour les autres. Mais si c'est notre point de départ, si c'est ça la motivation première, alors dans cette approche, nous pouvons avoir le sentiment de n'être qu'un simple moyen, un simple instrument entre les mains du Seigneur pour la bénédiction des autres. Voilà. On a demandé à l'Église de prier pour tel besoin. Ok. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, tu vois cette sœur qui est dans le besoin. Tu vois ce frère qui est dans le besoin. Voilà. Eh bien... On peut à un certain moment se dire, mais tiens, moi, personne n'a vu mes besoins. On me demande tout le temps de prier pour les autres. Et donc on peut avoir ce sentiment d'être un simple instrument entre les mains du Seigneur pour la bénédiction des autres. Tu es plus que cela. Tu es son enfant. Alléluia. Même si il veut que tu accomplisses cette vocation d'intercesseur. Abraham avait intercédé pour son neveu, gloire au Seigneur. Mais Abraham était d'abord et avant tout l'ami de Dieu. Il y avait une amitié, il y avait une relation profonde. Et au travers de cette relation, il pouvait même, mes amis, dialoguer avec Dieu. Lisez un peu l'intercession d'Abraham, vous allez voir le degré d'intimité que cet homme avait avec le Seigneur de gloire. Il parle avec lui. Comme un enfant parlerait à son père terrestre, qui aurait beaucoup d'autorité, et dit, ah papa, est-ce que s'il y a ceci, tu ne ferais pas ça? Ok, à cause de toi, ainsi de suite. Dans cette approche, dans ce scénario, nous pouvons avoir l'impression d'être une sorte de fusible qui permette au courant des bénédictions divines de se répandre, de passer par nous pour se répandre sur les autres. Nous devenons infusibles. Vous voyez? Et donc, Dieu a besoin de ces fusibles pour pouvoir bénir les autres. Nous sommes plus que des fusibles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si tel est notre point de départ, Alors, mes amis, la prière devient une obligation, devient une sorte de contrainte pour les bénédictions des autres. On a demandé à ce que nous prions pour le pays. C'est bien, nous devons prier pour le pays. On a demandé à ce que nous prions pour les autorités. C'est vrai, la parole de Dieu nous encourage. Mais si c'est seulement cela qui détermine notre point de départ, notre première motivation, eh bien, nous passons à côté. Nous allons considérer la prière comme une obligation. Je reçois des invitations. Allez, nous organisons ceci, la prière pour la ville, venez, tout ça. C'est bien tout ça. Mais quelquefois, quelle est la motivation derrière tout ça? Entre nous, ce qui est important pour Dieu, nous allons le voir, ce n'est pas tant l'action que nous posons. L'action peut paraître noble. Mais pour Dieu, c'est d'abord et avant tout la motivation. Ce qui nous motive à faire ce que nous sommes en train de faire. Car nous pouvons poser des actes qui peuvent paraître très nobles aux yeux des gens, alors qu'en réalité, nous posons ces actes pour attirer le regard des gens sur nous. Nous posons ces actes pour nous mettre en évidence, qu'on sache que dans cette ville de Kinshasa, il y a une femme, c'est la plus grande bienfaitrice. Voilà, la plus généreuse. Elle sillonne tous les hôpitaux de la ville. Et à chaque fois quand elle se déplace, il y a toujours des caméras. Voyez? Alors les gens peuvent vous applaudir. C'est vrai, c'est bien ce que vous faites. Mais aux yeux de Dieu, vous ne le faites pas pour lui. Et vous ne le faites pas non plus par amour pour ces orphelins. Vous avez vu que la campagne électorale approche. Vous voulez préparer les gens. Aux yeux de Dieu, ça ne compte pas. Voilà. Les gens auront mangé, les orphelins auront mangé, parce que la santé qui t'a permis de travailler, de récolter de l'argent, vient de qui? Ok, c'est juste ce que tu fais. Mais c'est une abomination pour lui. Et enfin, le vrai point de départ, la motivation par excellence, c'est que la prière et l'intercession sont considérés comme des moments de communion, des moments d'intimité et de partenariat avec notre merveilleux Père Céleste. Alléluia. Je l'approche d'abord, mes amis, pour passer du temps avec lui parce qu'il est mon Père. Et puis pendant que je suis là dans sa présence, alors je peux prier pour les besoins des autres, je peux prier pour mes propres besoins. Mais ceci ne devrait pas être la condition, la force qui me projette dans ses bras. Nous avons agi, dans la plupart des cas, en prenant les deux autres possibilités, mais le moment est arrivé où nous devons savoir que le Seigneur veut que nous l'approchions d'abord pour le louer, oh alléluia. Et la motivation derrière tout cela, l'amour, comme nous le verrons le dimanche prochain. C'est le premier commandement, et le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute sa force. L'amour doit être cette force qui nous fait lever pour nous amener à Dieu. Que nous ayons à manger ou pas, eh bien, il est mon Père, il est notre Père, et par conséquent, je m'approche de lui pour passer du temps avec lui. Je dois l'aimer pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il peut faire ou pourrait faire pour moi. Donc, une approche désintéressée. Lorsque le Seigneur enseigne à ses disciples comment prier, ce n'est pas pour que ceux-ci accomplissent des rites. Ce n'est pas pour qu'ils se mettent à réciter le Notre Père, comme ça s'est fait aujourd'hui. Je vois très mal le Seigneur réciter à chaque fois le Notre Père quand il était en communion avec son Père. Hein. Autrement, même les apôtres dans toutes les réunions, et voilà, commençaient par réciter Notre Père. Mais non, si vous récitez ça, vous mémorisez ça, ce n'est pas un problème. Ce sont des paroles qui sont dans la parole de Dieu. C'est comme le psaume 23, l'Éternel est mon berger. C'est pas mauvais de mémoriser les versets. Mais je ne pense pas que c'était pour que nous mémorisions et nous en fassions une tradition, un rituel, que le Seigneur nous a laissé cette parole. Voici comment vous devez prier. J'ai déjà eu à parler de ça. Viendra un temps, nous allons examiner ce Notre Père en profondeur. Et donc, s'il nous a montré cette façon de prier, ce n'était pas pour que nous puissions accomplir des rites, mais en nous laissant cette prière, ce modèle de prière, qui commence par ce vocable « Notre Père », le Seigneur a voulu faire entrer ses disciples dans la même relation d'amour que lui entretient avec son Père. Il dit « Notre Père ». Il s'adresse aux disciples. Il aurait pu. Voilà comment vous devez prier. Votre Père. Hein, n'est-ce pas? Mais il dit notre Père. C'est par lui que nous accédons à notre Père. Celui qui est le chemin. Celui qui est notre souverain sacrificateur. Qui se tient devant Dieu. C'est par lui, au travers de lui, que nous nous approchons de ce Dieu qui est devenu notre Père. Alléluia. Entre Jésus et son Père, une relation d'amour. Il a agi par amour pour son Père. Il a accepté la mission de son Père par amour pour son Père, mais aussi par amour pour l'humanité. Voyez-vous, c'est en cela que nous disons que Jésus est la manifestation parfaite de l'amour de Dieu pour l'humanité. Une relation d'amour entre les deux. Et c'est ce type de relation que nous devons avoir avec ce Dieu qui est devenu notre Père. Une relation désintéressée. Dans le vrai amour, il n'y a pas d'intérêt. Dès lors qu'il y a un intérêt quelconque, ce n'est plus le vrai amour, comme la parole de Dieu nous le décrit. Tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait par amour pour nous. Il n'y a rien en nous, il n'y a rien auprès de nous qui puisse le contraindre à agir d'une certaine manière. Voyez-vous, on a enseigné aux gens qu'il fallait arracher les bénédictions. C'est même irrévérencieux. Hein? Vous voyez? Arracher. C'est comme s'il tenait. Enfin, je ne sais pas, hein? Peut-être en français ça veut dire quoi? Arrache-lui un peu ce qu'il a. Ça veut dire quoi? Même le jeûne, ce n'est pas une force pour manipuler Dieu. Même le jeûne doit nous permettre, mes amis, de cultiver notre intimité avec Dieu. Je me prive pour lui d'abord, parce que j'ai besoin de passer du temps avec lui, parce que j'ai besoin de m'attarder davantage en sa présence. Et puis je peux, pendant que je me prive, je peux intercéder, mais non, pour d'autres besoins, y compris mes besoins. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, et en particulier lorsque nous étudions les évangiles, nous voyons que depuis sa première parole, alors que Jésus n'avait que 12 ans, à sa dernière parole sur la croix, avant de rendre l'esprit, eh bien son Père tient la première place dans sa vie. Il ne pouvait rien faire sans avoir passé auparavant du temps avec son Père. Alléluia. Il ne pouvait rien faire, mes amis, sans avoir été voir son Père. Il le dira lui-même, tout ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. Alléluia. Et donc, dès sa première parole, à 12 ans, nous allons lire le passage, à sa dernière parole, la septième qu'on appelle les sept paroles de la croix, eh bien, son Père occupe la première place. Il a vécu d'abord et avant tout pour son Père. Il a demeuré dans la volonté de son Père. Il a accompli la volonté de son Père à la perfection. Alléluia. C'est ainsi qu'il a reçu de lui le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Luc chapitre 2. Versets 45 à 49, là, chapitre 2, Jésus a à peine 12 ans. Ses parents le prennent, il monte à Jérusalem pour s'acquitter des devoirs religieux. Il y avait une fête, les voilà qui partent. Et quand le jour fut écoulé, les parents retournent en Galilée, puisque Jérusalem se trouvait en Judée. Mais ils ne s'aperçoivent pas que Jésus n'était pas avec eux. Ils se sont mis à le chercher, ils ont demandé aux parents et tout ça, personne. Évidemment, c'est l'angoisse. Où est-il parti? Où l'avons-nous perdu? Ils reprennent le chemin de Jérusalem. Ils arrivent à Jérusalem. Ils se mettent à les chercher. 3 jours qu'ils vont chercher le Seigneur. Et finalement, le verset 45 nous dit, mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, évidemment de voir leur fils de 12 ans assis au milieu de docteurs de la loi, en train de les questionner et de répondre à certaines questions. Évidemment, ils sont saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, écoutez maintenant, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici que ton père, donc Joseph, et moi, nous te cherchons avec angoisse. » C'est normal, c'était des parents attentionnés. Et Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon à 12 ans. Et tout au long de sa vie terrestre, son père va occuper la première place. Il va avoir une relation intime avec son père. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et sa dernière parole, celle que l'on appelle la 7e parole de la croix, eh bien, est aussi consacrée à son père. Dans Luc 23, verset 45, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Vous voyez? Ainsi, toute la vie du Seigneur Jésus, du début à la fin, aura été placée sous le signe de sa relation avec son Père, de sa relation Père-Fils, de sa communion intime. Mes amis, soyez les imitateurs du Christ. Telle est la parole que le Seigneur adresse à tous ses disciples. Nous devons l'imiter dans tout. Voyez ? Et privilégier notre relation avec le Seigneur avant toute chose. Il avait une relation d'amour envers son père, et son père avait la même relation envers son fils. Alléluia. Mes amis, voilà le type de relation que nous sommes appelés à avoir avec Dieu. Une relation qui repose entièrement sur l'amour. Quand nous nous approchons de lui, eh bien que l'amour soit la motivation première. Je me tourne vers lui. Pour chaque demande de prière, je vois d'abord et avant tout une opportunité de m'approcher de lui. On demande de prier pour la ville de Kinshasa qui en a besoin, c'est vrai. Je vois dans cette demande, je vois dans cette invitation, dans cet appel, une opportunité de m'approcher de mon Père et de passer du temps avec lui. Alléluia. Je m'approche avec amour et puis je lui parle, nous dialoguons, je Je m'attarde dans sa présence. Je respire l'oxygène céleste. Je m'imprègne de l'atmosphère qui règne dans son palais céleste. Et pendant que je suis là à l'adorer, à le louer, par amour pour lui, je peux alors lui présenter le besoin. Seigneur, tu vois ma ville, Kinshasa. Tu vois ce qu'elle est. Ma ville a besoin de toi. Seigneur, pose ta main sur nos dirigeants. Seigneur, fais ceci, fais cela. Vous voyez? Ça vient au second plan. Gloire au Seigneur. Un autre texte met en évidence la primauté de l'intimité, la primauté de la communion avec Dieu sur toute autre activité, quelle qu'elle soit. Encore une fois, tout ce que nous sommes censés faire pour Dieu, évidemment avec Dieu, tout cela, y compris la prière, doit être motivé par l'amour. L'amour, l'amour seul, comme la force qui nous fait bouger, qui nous amène, qui nous fait entrer dans cette action, action dont le but est de nous approcher de Dieu. Quel est ce texte? Eh bien, c'est Luc 10, cette histoire où le Seigneur va être reçu par Marthe dans sa maison. Luc 10, versets 38 à 42, la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe, quant à elle, était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, deux fois, il insiste, hein, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Marie a choisi la bonne part. Dans ce texte, mes amis, le Seigneur montre à Marthe qu'il avait accueilli évidemment dans sa maison et qui normalement devait tout faire pour apprêter à manger pour le Seigneur, oui ou non? Oui. Et donc, ce qu'il faisait quelque part était légitime, du point de vue humain. Mais le Seigneur va lui expliquer que la communion avec lui passait avant le service. Cela est important. Regardez, elle accueille le Seigneur dans sa maison. Marthe est avec sa sœur, Marie. Marie va tout de suite s'asseoir au pied du Seigneur et se met à boire sa parole. Alléluia. Elle se met au pied du Seigneur. Elle est en communion avec lui. Quant à Marthe, qui le reçoit, eh bien, il faut que le Seigneur mange, n'est-ce pas? Il faut que la table soit prête. Il faut que ceci et que cela soit OK. Elle va, elle commence à préparer, et puis elle se retourne, elle regarde, elle se serait attendue à ce que sa sœur vienne l'aider dans ce service-là. Mais non, la sœur est assise calmement, royalement, studieusement, au pied du Seigneur, buvant sa parole. Alors, elle est hors d'elle-même, hein. Elle dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que Marie m'a fait? Ben, maman, qu'est-ce que Marie me fait? Elle vient. Elle ne s'adresse pas à sa sœur. Hein? Elle s'adresse au Seigneur. Elle dit, Seigneur, tu ne me te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Il y a beaucoup à faire, Seigneur. Demande-lui de venir m'aider. Vous voyez, elle a pris le mauvais départ. La motivation qui l'amène à Jésus, ce n'est pas tant de passer du temps avec lui. Ce n'est pas tant de se dire, quand lui est là, tout devient secondaire. Mais la motivation est que le Seigneur puisse rencontrer ses préoccupations. Le Seigneur intervient auprès de ma sœur. Dis-lui qu'il y a du travail, que tu dois manger. Vous voyez, mes amis, mais Marie a pris le bon départ. Marie a pris la bonne motivation. Marie est allée et s'est dit, quand lui est là, le meilleur endroit où il faut être, c'est à ses pieds. Gloire à Dieu. Alors que Marie s'affairait à la cuisine pour préparer le repas, sa sœur, elle, a choisi la bonne part, a choisi quelque chose de plus important que le service. Elle s'est assise au pied du roi des rois. Elle s'est dit, ce n'est pas tout le jour qu'on a le Seigneur chez soi. Alléluia. Alors j'en profite au maximum. Mes amis, quand lui est là, eh bien, il doit être considéré comme étant la priorité de notre vie. Il est entré dans nos vies un jour, non pas comme un simple invité, non. Et malheureusement, tout en étant dans notre vie, nous le considérons comme un simple invité. Nous le faisons asseoir. Et gloire à Dieu, Seigneur, merci, tu as pardonné mes péchés, merci, tu m'as débarrassé de tant de défauts qui intoxiquaient mon existence. Seigneur, merci, mais non, je brille, merci. Voyez, mais entre-temps, nous sommes encore assis sur notre tabouret. Et lui, il est là à côté. Nous le considérons comme un simple invité, on a déjà eu à parler de ça, mais il veut être l'hôte suprême. Quand il est là, nous devons laisser notre escabeau aller nous asseoir à ses pieds afin que lui transforme notre escabeau, le petit tabouret sur lequel nous étions assis, le petit tabouret, notre vie, qu'il transforme ce petit tabouret en son trône et qu'il règne dans nos vies en étant assis dans nos vies, en occupant la première place. Afin que tout désormais orbite autour de lui. Que nous ne soyons plus le centre de notre vie, mais que nous soyons là en périphérie. Et que nous arrivions à dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voyez. Voilà ce qu'il attend de nous. Mes amis, trop souvent, nous sommes tellement obnubilés par le service. Nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela, que nous oublions ce qui est plus important, la chose la plus importante, c'est-à-dire notre relation, d'abord avec le Seigneur, et puis ensuite, notre relation avec le prochain. Voyez-vous, et nous, en dernier, nous en reparlerons le dimanche prochain. Voyez, d'abord avec le Seigneur. C'est la chose la plus importante. Jésus a fait, vous connaissez, nous allons terminer par là, a adressé des reproches aux chrétiens d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2. Les 7 premiers versets, il commence par faire l'éloge de cette église. Voyez-vous? Il commence par féliciter cette église pour sa persévérance. En effet, cette église, faisant face à toutes sortes d'adversités, à toutes sortes d'épreuves, eh bien, est restée ferme, a fait preuve de persévérance. Et le Seigneur félicite ces chrétiens d'Éphèse, voyez-vous, pour leur persévérance. Il les félicite pour leurs bonnes œuvres. C'était une église qui excédait dans les œuvres. Et le Seigneur en parle. Mais cependant, cette église avait perdu l'essentiel, son premier amour. Alléluia. Il leur rappelle que leur relation, il rappelle aux chrétiens d'Éphèse, que leur relation d'amour avec lui, Jésus-Christ, était primordiale. Il n'était pas intéressé par toutes ses œuvres. Ça servait à quoi de faire ses œuvres sans le Seigneur? C'est là qu'il leur dit, repentez-vous. Revenez, retournez. Retrouvez votre premier amour. Alléluia. L'amour. Ils avaient abandonné ce premier amour. Et le Seigneur les appelle à la repentance. Pour terminer, c'est que le Seigneur a dit en substance, en résumé, à l'église d'Éphèse, et c'est ce qu'il nous dit aussi aujourd'hui, c'est que les bonnes œuvres, quelles qu'elles soient, doivent découler de notre relation avec le Seigneur et ne jamais définir notre relation et ne jamais remplacer notre relation. Voyez-vous, on est au four et au moulin. On est diacre ou diaconesse, on est pasteur, on est ancien, peu importe. On ne voit que ce qu'on peut faire. Voilà, on est ici, on est là-bas, etc. Et avec le temps, eh bien, les œuvres que nous faisons, les œuvres que nous accomplissons, finissent par déterminer notre relation avec le Seigneur. Finissent, mes amis, par remplacer notre relation avec le Seigneur. Et ceci est un drame, ceci est une tragédie. C'est la relation qui doit être privilégiée. Alléluia. Et les œuvres, quelles qu'elles soient, doivent découler de cette intimité que nous avons avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous incliner dans la prière. Que chacun de nous s'examine à la lumière de tout ce que nous venons de voir. Désormais, nous savons que doit être notre point de départ lorsque nous prenons la résolution d'approcher Dieu pour le rencontrer au travers de la prière et par la prière. Notre point de départ, c'est notre communion avec le Seigneur. Voir dans la prière une rencontre d'abord et avant tout avec notre Père, pour passer du temps avec lui, et ce par amour. Et ce n'est qu'après alors que nous pourrions prier pour les besoins des autres et terminer avec nos propres besoins. Et nous avons besoin que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour tout. Nous aimerions être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui intercèdent auprès de toi en faveur de ceci ou de cela, comme ta parole nous le recommande. Mais nous voulons d'abord et avant tout, Seigneur, considérer la prière comme une rencontre avec toi, notre Père en Jésus-Christ, comme une opportunité de nous approcher de toi pour t'encenser avec notre louange, avec notre adoration, pour t'exprimer notre reconnaissance pour ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu ne cesses de faire. Et c'est seulement après que nous pourrions, Seigneur, intercéder pour les besoins des autres, mais aussi te présenter nos propres besoins. Aide-nous à privilégier notre intimité avec toi, à privilégier notre relation, à considérer la prière comme une opportunité de travailler, de cultiver, Seigneur, notre relation, notre communion avec toi, et quelquefois accompagner ce moment de prière par le jeûne. Tout cela dans le but, Seigneur, de nous approcher davantage de toi, de nous fondre davantage entre tes mains. Merci Seigneur, merci pour tout, aide-nous dans ce domaine. Merci, et que le programme que nous allons démarrer le mois prochain, comme cela a été le cas, Seigneur, dans ce mois-ci, soit une opportunité pour nous, ô Dieu, de nous approcher de toi pour mieux te connaître, pour mieux t'expérimenter, nous approcher de toi, Seigneur, pour soigner notre relation avec toi, car c'est de cette relation que doivent découler toutes les bonnes œuvres, Seigneur, auxquelles nous aspirons. Merci pour tout. Merci de venir également, Seigneur, ce moment destiné aux offrandes, aux dîmes, mais aussi au soutien quant à la construction de notre nouveau temple. Merci pour tout. Merci Seigneur. Amen.